j'avais un rêve, ça serait ça, d'être encore plus paysanne.
Ce soir, Marie-Laurence Saladin, une jeune vigneronne de 30 ans qui succède à 20 générations de vignerons. À ce soir, 21h, France Inter et France 4 présentent Tricky. Mixed Race. Tricky sera en tournée dans toute la France à partir du 16 novembre, au Trianon à Paris le 30 novembre. Retrouvez Tricky dans le programme musical de France Inter. France Inter. La différence.
15h04 sur France Inter, l'heure de retrouver Daniel Mermet, là-bas, si j'y suis.
Allô, c'est Robert Millet dans le Jura, avec Charlotte. J'écoute l'émission. Je m'amuse comme je ne me suis jamais amusé. Et j'ai presque de la sympathie, un peu apitoyée, pour les petits jeunes de l'UMP. S'ils sont sincères, si c'est pour faire carrière, bon, c'est autre chose. Mais s'ils sont sincères, c'est tordant. Bien entendu, vendredi 24, j'étais à Lons-le-Saunier en train de manifester. J'ai 60 ans et demi, je suis artisan, je suis encore en activité, mais c'est parce que j'ai un peu peur de prendre ma retraite. Je suis à peu près, j'ai mal partout, mais bon, je travaille à mi-temps, tranquillement, puis je rends service aux gens. C'est pour ça que je continue. Bon, bonne continuation Daniel, parce que ton émission est vraiment bien et elle est ouverte.
Excellent, excellent ton émission d'aujourd'hui, Daniel. Terrible, l'infiltration du MP et tout. Ça donne envie d'aller manifester. Comme disait ton auditeur de la veille, qui pouvait pas aller manifester, qui se sentait un peu coupable et tout, c'est un peu mon cas, je suis croyant mais pas pratiquant. Mais comme lui, je vais en profiter le prochain samedi pour y emmener mes gamins, leur montrer comment on peut être ensemble et comment on peut croire en quelque chose d'autre. Et ça me fait bien envie. Allez, à bientôt à tous. Ciao.
Bonjour Daniel, bonjour à toute l'équipe. Je suis désolé, aujourd'hui, j'ai pas pu aller au bout de ton émission. Quand j'ai vu ces charlatans, parce que c'est du charlatanisme, raconter tout ce qu'ils ont raconté à l'UMP, j'ai pas pu aller au bout, j'ai pas pu supporter. Je suis désolé. J'ai bientôt 70 ans, mais j'ai encore quelques illusions.
Salut Daniel, c'est Sylvain à Nancy. Alors c'était pour remercier Pascal et François pour cette bonne tranche de rigolade. Cela dit, au final, je suis pas sûr que vous ayez eu une très bonne idée. Parce qu'on se rend bien compte que François est aussi doué pour défendre les thèses libérales que les thèses antilibérales. Et donc, on se demande si tout ça n'est pas la démonstration de l'échec du militantisme. Je crois que le débat doit se positionner ailleurs, ou alors tout simplement reconnaître que le débat est vain.
Oh là là, Mermet, quelle affaire! Un Ruffin qui tourne sa casaque, mais c'est une catastrophe! Ah, du coup, à l'époque où il était gauchiste, nous on l'avait invité à venir mercredi à Annecy, on avait distribué des centaines de flyers à la manif, et là, v'lan, oh, c'est terrible! Bon, bah, donc, attends, on va changer l'annonce. Demain, mercredi 29 septembre à 19h30, salle René Honoré au gymnase de Sous-Allérite du Pont-Neuf. Et c'est facile à trouver, c'est derrière le Quick et le Speedy du Pont-Neuf. Apportez goudrons et plumes pour le traître François Ruffin qui vient nous convaincre de prendre notre carte à l'UMP. Je pense qu'il y aura du monde là. Ça se passe demain, mercredi 19h30, salle René Honoré, qu'on se le dise et répète.
Salut, bah dites donc, ça va mal à l'UMP, hein. Le surnommé Courage Fillon, qui veut quitter son petit maître qui n'est pas son mentor. La marquise du ministère du Tout va très bien, qui veut continuer à perforer le bouclier fiscal. La fashion victime Rachida Dati, qui nous fait des fellations quasi nulles en direct à la télé. Hirsch, qui écrit que Longuet s'est payé une partie d'une maison à Saint-Tropez avec des timbres rares qu'il avait reçus en tant que ministre de la Poste. Bakchich, qui écrit que Besson et sa nouvelle épouse aurait réglé les billets d'avion pour eux et deux gardes du corps pour un week-end privé en Italie, aux frais du contribuable. Copé qui veut piquer la place de secrétaire général de l'UMP à Besson. Bon, en plus, tout ça, après le permis de construire en béton et l'avion à 116 000 euros de Jeuillandais, les cigares de Christian Blanc, les multiples appartements d'Estrosi d'Amora. Ah, je vous dis, mon pauvre monsieur, tout fout le camp, tout fout le camp.
Bonjour, les AMG du Repère de Chalon se retrouveront demain, dernier mercredi du mois, à la Pitchouli à 20h. Vendéens et voisins d'alentour, vous êtes les bienvenus.
Oui, bonjour à tous. Juste un mot pour dire que tous les postiers de Saint-Claude dans le Jura sont en grève. 100% des postiers en grève, c'est du jamais vu depuis 68. Et nous les soutenons. Dire aussi que face à cette grève concernant des cadences infernales et intenables pour réaliser leur tournée, la direction de la Poste a mis en place un service de remplacement illégal pour la distribution du courrier en embauchant des gens précaires pour briser la grève. Nous sommes nombreux à être écœurés par cette façon de faire et nous vous invitons à aller soutenir les grévistes et participer à la caisse de grève au centre de tri rue des Étapes à Saint-Claude. Plus que jamais, à la Poste comme ailleurs, le travail rend vraiment timbré. Affranchissons-nous. Salut.
Moi, j'appelle pour les Mapuche, là. Bon, c'est bien d'en parler, mais pas trop quand même, parce que sinon, ils vont retrouver leur nom sur des fringues de sport ou un téléphone portable, ou pire, un produit d'épargne bancaire. Et là, ça serait vraiment pas leur rendre service. Ciao à tous et per que passe la retirade à Bintans. Adieu.
Eh ben adieu, merci. Oui, les Mapuches, ben on va essayer de faire attention à pas trop en parler. En tout cas, on en parlera quand même, mais surtout, c'est eux-mêmes qui parleront dans la série que nous vous présentons de ce voyage au Chili. À partir de mardi prochain, on démarre. Et on ira voir aussi bien les 33 mineurs, enfin on les verra pas d'ailleurs, à moins qu'ils soient sortis d'ici là, parce qu'il serait pas du tout exclu qu'ils sortent beaucoup plus tôt que prévu. Et puis on ira aussi à la rencontre de ces Mapuches, qui sont en lutte aussi de l'autre côté de Santiago, au sud, mais qui, eux, ont beaucoup moins de couverture médiatique. Alors aujourd'hui, ben vous allez sortir de cette heure, si vous restez avec nous jusqu'à 16 heures, beaucoup plus heureux d'ici là. C'est une émission de bonheur que nous vous proposons, car d'ici à 16 heures, vous allez être heureux de payer des impôts. Voilà, oui, vous allez comprendre pourquoi c'est le bonheur que de payer des impôts. C'est le défi qu'on s'est lancé. Vive les impôts. C'est notre sujet du jour, avec entre autres François Ruffin, mais pas seulement. Il y aura d'autres personnages extrêmement importants dans cette heure. Auparavant, encore quelques messages. Parmi ceux que vous avez laissés dans la boîte vocale de là-bas, si j'y suis, au 01 56 40 37 37.
En plein débat sur les réformes de retraite, je lis dans le Canard enchaîné, déclaration de Bernard Accoyer, le président de l'Assemblée estime que le très confortable régime des retraites des parlementaires ne doit pas être modifié contrairement à celui des autres Français. Ça a été repris également dans le Parisien. Nous ferons attention à ne pas dissuader nos compatriotes de devenir parlementaires. C'est vraiment très très grave que ce président en soit réduit quand même à faire ce type de déclaration, alors que beaucoup de gens vont souffrir, beaucoup de gens risquent de pleurer même. C'était Jean-Pierre dans le Vaucluse.
Salut, à Perpignan, café repère extraordinaire ce jeudi 30 au Lisboa à 19h en vue de la préparation des manifs. Que tous ceux qui ont aimé chanter avec nous et gribouiller sur notre banderole nous rejoignent, que tous ceux qui pensent que ça ne sert à rien comprennent que la seule chose qui ne sert vraiment à rien, c'est de ne rien faire, que tous ceux qui en ont marre d'être pris pour des pauvres cons se réveillent.
Avis à la population du Nord-Poitou. Oui, il y a bien des rencontres des AMG de là-bas si j'y suis, au nord du Poitou, dans le nord des Deux-Sèvres. Ça se passe à Bressuire, dans le bocage nord de Sèvres. Et ça se passe chaque premier vendredi du mois à 19h30 au bar L'Appartement, rue des Cordeliers, à côté de la mairie de Bressuire. Et on reprend nos rencontres le vendredi 1er octobre à 19h30 à L'Appartement. Salut.
Bonjour. Face aux frasques de notre droite actuelle, je conseille à chacun de lire ou de relire L'étrange défaite de Marc Bloch, qui, je le rappelle, est mort fusillé et torturé par la Gestapo. Je voulais faire deux citations, parce qu'elles sont importantes à aujourd'hui. La première, l'indépendance nationale à l'égard de l'étranger et la liberté intérieure sont indissolublement liées. Elles sont l'effet d'un seul et même mouvement. Ceux qui veulent à tout prix donner au peuple un maître accepteront bientôt de prendre ce maître à l'étranger. Pas de liberté du peuple sans souveraineté du peuple, c'est-à-dire sans république. C'est toujours d'actualité, non, quand on voit ce qui se passe avec l'Europe. Et pour finir, on reconnaît l'ennemi du peuple au fond de doctrine qu'il professe. Il n'est pas besoin d'insister beaucoup pour lui faire avouer l'essentiel, à savoir que la révolution est une folie, que le peuple ne connaît pas son bien, qu'il faut le ramener à l'obéissance et le conduire d'après des lumières supérieures qui brillent pour les augures académiques, mais qui sont invisibles à vous, à moi, aux paysans, à l'ouvrier, à tous les petits. Or, il y a deux sortes d'ennemis du peuple, ceux qui vont s'y faire et ceux qui font les dégoûter. À lire et à relire, c'est très actuel. Ciao.
Salut Daniel, simplement pour information, le lycée à Alès dans le Gard, JBD, était bloqué hier en opération coup de poing et il l'est toujours ce matin. Voilà, qu'on se le dise.
Oui, bonjour les amis du repère de la Vasse, j'y suis des Coteaux du Lyonnais. Donc c'est pour vous annoncer le prochain repère le jeudi 30 septembre qui aura lieu à Saint-Maurice-sur-Darcoire. On change de local, on change de bistrot et on va aller au bar des Gourmandines à Saint-Maurice-sur-Dargoire, rejoindre Marco. Ce soir, on va discuter autour des retraites, et ce débat sera animé par Bertrand Bonny, militant Intac. Donc on vous attend donc le jeudi 30 septembre à 20h30 au bar Les Gourmandines à Saint-Maurice-sur-Dargoire. À jeudi.
Bon, plusieurs calculettes en marche alors. Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Oh, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 3, 4, 4, 5, 6. Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Les 37 qui coûtent le plus, ouais. Donc, alors par exemple la deuxième, en fait je sais même pas ce que ça veut dire.
Bah, c'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions, la cession mobilière c'est quand vous prenez des bénéfices, vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérable.
Alors j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait on comprend pas trop, les niches fiscales c'est en milliards, donc on comprend pas trop ce que ça veut dire des milliards.
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire qui est de 18% d'impôt sur revenu, plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Oui, aïe, aïe.
Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt.
L'abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je sais pas ce que c'est.
Donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif.
En fait, je sais même pas ce que ça veut dire.
La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois que vous avez un principe, des dérogations au principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre.
Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous quand même.
Je vais tout de suite l'épouser là.
Oui, aïe aïe.
Salut, c'est Daniel Mermet, c'est là-bas si j'y suis avec François Ruffin. Fiscalité, la fabrique des inégalités. Vive l'impôt!
Bon, voilà Daniel, je pense que j'aurais pu commencer ce reportage à peu près n'importe où. J'aurais pu le commencer dans une cantine scolaire avec des salariés précaires. Ça monte là, je suis en vélo et ça monte. Et j'aurais pu le commencer dans une maternité qui ferme à la campagne. J'aurais pu le commencer aux grèves d'un tribunal qui croulerait sous les dossiers. Mais comme je suis paresseux, je vais le commencer juste au-dessus de chez moi, à Amiens, avant la manif de ce mardi 7 septembre. Je m'en vais à l'hôpital, l'hôpital Saint-Victor, parce qu'à l'hôpital, cette année, à Amiens, il y a eu le premier plan de licenciement. 165 postes, je crois, non seulement les départs en retraite ne sont pas remplacés, mais en plus il y a eu des licenciements. Il y a une réunion syndicale avant la manif. Je vais juste aller poser une petite question.
Voilà, vous avez compris où nous sommes aujourd'hui avec François Ruffin. On s'est dit quand même, un jour, il faudrait qu'on essaye de comprendre comment ça fonctionne, ces histoires d'impôts. Quand on dit impôts, on pense tout de suite à l'impôt sur le revenu, mais vous savez bien qu'il y en a beaucoup d'autres. Il y a l'impôt sur le patrimoine, il y a les taxes diverses et variées, dont la TVA, il y a toutes sortes de cotisations. Tout ça, ça constitue les impôts et c'est la chose dont on n'aime pas trop parler. Nous sommes impôtophobes et nous ne sommes pas les seuls. C'est une très vieille histoire que celle de l'imposition. Depuis bien longtemps, c'est le roturier, c'est le petit ou le petit moyen qui paye davantage que le noble ou l'ecclésiastique, bien évidemment, malgré la Révolution française qui a voulu abolir les privilèges, les privilégiés, le reste, parce qu'ils s'arrangent pour ne pas payer d'impôts, et comme ils ne payent pas d'impôts, ou moins, ou peu d'impôts, ben, ils restent privilégiés. C'est le cercle magique, c'est la roue des privilèges. Or, cette roue, eh bien, on la voit tourner, on sait très bien qu'elle tourne, et on ne s'en soucie pas davantage que ça, sauf qu'on est contre ces impôts. On oublie qu'il y a un lien, bien sûr, entre les impôts et la pauvreté, et un lien avec les inégalités. Il y a même directement un détriment entre ces privilégiés qui ne payent pas d'impôts et ces infirmières qui se font virer. On a publié aujourd'hui le chiffre de la pauvreté en France. C'est l'INSEE qui publie cette enquête annuelle. 7,8 millions de Français vivent en dessous de 949 euros par mois et la moitié de ces 7,8 millions, soit 3,9 millions, avec moins de 773 euros chaque mois. C'est 13% de la population française qui vit en dessous du seuil de pauvreté. Ça fait beaucoup de monde, 13% de la population française, 8 millions de Français. Y a-t-il un lien entre cela et les impôts que paye, ou plutôt ne paye pas, Madame Bettencourt ? Bon, le chèque de 32,6 millions du Trésor public qu'elle a perçu au titre du bouclier fiscal, est-ce démagogique que de faire ce rapprochement ? Pas tant que ça, pas tant que ça. En tous les cas, on a l'audace de le faire, ce rapprochement. Et puis on fera un autre rapprochement. On a voulu en savoir plus sur un autre rapprochement, sur un autre lien et sur un autre détriment, sur l'état des finances publiques qui sont en piteux état. C'est ce dont on nous rebat les oreilles. Eh bien, cet état piteux des finances publiques, c'est d'abord parce qu'elles ont été ruinées par la politique de baisse des impôts conduite depuis 10 ans, et non pas à cause de cette crise, une chose vague, la crise économique, c'est à cause de la crise. Et ces trois rapports qui ont été publiés récemment au cours de ce premier semestre en France, qui l'indiquent extrêmement clairement. Et on évoquera aussi ces détriments et ces liens et ces rapports entre, eh bien, ces éléments qui nous sont toujours présentés d'une autre façon. On va apporter aujourd'hui, jusqu'à 16h, dans la basse si j'y suis, un éclairage différent. Fiscalité, la fabrique des inégalités, vive l'impôt.
Monsieur pour la monnaie, monsieur tout gris et gris complet, à la moisson t'as se faucher, faucher le blé de nos pavés. Merci monsieur l'alter altruiste, nous sommes de bons éco-novices, intermigrants à l'imparfait, et si sur vos champs de vieux jouets. Mais elle sonne creux la tirelire. Monsieur a de nouveaux loisirs. Mon cochon a le ventre en l'air. Et c'est bien là, photo notaire. Merci pour les huissiers de malice. Huissier coutume dans mon service. Mon vélo s'est fait embarquer. Mais mon vélo, je l'ai pas volé. Merci monsieur le sous-percepteur. Dessous de galettes et de beurre, j'étais allé rendre visite à grand-mère. Mais là encore, le loup se resserre. Même monsieur est un argentin, ou d'Argentine ou d'argent. Tiens, et collez sous ses tonnes de carbone. Madame Manif a l'air d'une conne.
Merci, monsieur. C'est quoi le conduit à monsieur?
Merci, monsieur, pour le menu. Salé comme un chien, et c'est du tout cru. T'es un petit rond comme que va le chapeau. Pour bien nous voir en bas, parce que toi t'es d'en haut. Oh, c'est l'entremise des entreprises. On est mataillé et on a plusieurs chemises. Mais une seule veste et un seul côté. Comme ça on évite nous de les retourner. Intermutant, intermuable, faut changer de peau. Mythe contribuable, faut changer de tango. Pour faire danser misère, faire vibrer nos gros lots. Pour amuser le maire, baisser nos calcifs pour subvention zéro. On n'est pas des gigolos. Quand casse les dents, quand tombent les joues. Quand y a plus rien, ben on devient des loups.
Merci, merci monsieur. C'est quoi qu'on dit à monsieur?
Meunier, t'es mort. Ton état bat trop fort. Meunier, t'es mort. Ton état bat trop fort.
Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort. Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort. Meunier, 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 t'es mort. Ton état pas trop fort.
Il faut pas qu'on occupe tout le temps à parler. Il faut aussi savoir les écouter, quoi.
Donc là, vous allez à la manif?
On va à la manif, ouais.
Et les banderoles, tout ça, elles sont pas ici?
Non, elles sont dans notre camion.
Ils sont
instituteurs... infirmière, pompier, policier. C'est bien tous ces métiers, hein, c'est noble, c'est nécessaire. On est fiers de nos infirmières, de nos instituteurs, parfois même de nos policiers, toujours de nos pompiers, etc. Ben, tout ça, c'est les fonctionnaires. On dit, ah, les fonctionnaires. Ben oui, mais tous ces gens-là sont des fonctionnaires. Et il s'agit de s'en séparer, enfin du moins d'en réduire le nombre. On sait ces politiques qui sont en marche et qui avancent comme un rouleau compresseur qui détruit ses emplois et ses services et ses protections et qui se font, eh bien, ces destructions au détriment, c'est au détriment des, évidemment, des trésors publics, des biens publics, des impôts et de la fiscalité. Il y a un lien direct entre tout ça et en voici la preuve.
J'ai vu qu'il y a eu un plan de licenciement là, depuis le début de l'année, c'est ça?
C'est un plan de licenciement déguisé.
C'est la première fois que ça se passe, ça, ou...
Oui, c'est le premier plan, mais on sait qu'il va y avoir une deuxième session parce qu'il faut atteindre ce qu'on appelle un contrat de retour à l'équilibre. Un déficit oblige, on supprime des emplois pour faire des économies.
Et il faut supprimer combien d'emplois, là, alors ?
160.
283 étaient prévus, donc à l'avenir, ils vont remettre en place un deuxième plan pour arriver aux 283.
Et alors, comment ça se fait qu'on a besoin de... Il n'y a plus assez de boulot?
On en a beaucoup trop, là, vous allez nous faire mourir de rire. Non, non, on a beaucoup de travail. Simplement, quand on a un certain budget qui est revu à la baisse, la seule chose sur laquelle on peut toucher, puisque bon, il y a tous les investissements de matériel et tout ça, c'est sur la masse salariale. Donc, il faut être plus productif, avec moins de personnel et moins d'argent.
Mais et vous, alors, vous faites quoi dans l'hôpital?
Moi, je suis infirmière.
Et dans votre service, il y a trop de monde aussi?
Ah, dans mon service, il n'y a pas trop de monde, il y a trop de patients et il n'y a pas suffisamment de personnes pour les accueillir comme il se doit. Enfin, moi, quand je reçois des gens et que je ne peux pas le consacrer le temps que je voudrais à les écouter, que j'ai l'impression de faire un travail à la va-vite, ça ne peut pas être satisfaisant personnellement, ni pour moi, ni pour les gens que j'accueille.
Donc, vous diriez, à la place de supprimer 283 emplois...
Embauchons, embauchons.
Est-ce que vous faites le lien entre ça, les 283 suppressions de postes à l'hôpital, là, au CHU d'Amiens, et la feuille d'imposition de Liliane Bettencourt?
Ah, arrêtez. C'est pas possible. Bien sûr qu'il faut faire le lien. Elle a des cadeaux aussi, le bouclier fiscal, l'État lui a remboursé de l'argent.
Si jamais Liliane Bettencourt, elle payait ses impôts sans niche fiscale, normalement, combien de postes d'infirmiers? Vous savez combien ça ferait à peu près?
Je sais pas, j'imagine même
vous
pas.
Vous voulez pas une division là? Vous avez pas une calculette là dans le coin?
Oh, on a tous des portables avec des...
Comme on vieillit, je conseillerais à mes copines et mes copains d'en faire autant parce que j'ai peur d'être un peu défaillante, vous savez.
Bon, plusieurs calculettes en marche alors. Liliane Bettencourt, elle touche 400 millions d'euros par an.
Oh, 400 millions. Ah, vache.
Encore 6.
1, 2, 3, 4, 4, 5, 6.
Mon portable, il va exploser, il n'a jamais vu autant.
Voilà, donc on est à bien avec 400 millions. Je crois que c'est 408 millions, mais enfin...
On ne va pas chipoter pour 8 millions. Hein.
Voilà, on n'est pas à 8 millions près. Le bouclier fiscal, normalement, c'est 1 euro sur 2. On ne doit pas donner plus de la moitié de son argent aux impôts.
Oh, bah, pas fini.
Donc on va dire qu'effectivement, on lui en laisse la moitié. Ça
elle
fait 200 millions.
Ouais.
200 millions. Là, elle paye pour de vrai 34 millions d'euros par an à peu près.
Là, ça devient compliqué.
Bah, vous enlevez, enlevez 40. Allez, on enlève 40 millions.
40.
On dit qu'elle paye 40 millions en moyenne.
Alors, on va mettre 160 millions.
Divisé.
Oui.
Combien touche une infirmière en début de carrière?
1000. Allez, on va mettre 1500 euros.
Divisé par 1500.
Là, ça va aller mieux. J'arrive mieux à gérer les zéros.
Divisé par 12, maintenant, pour avoir... sur une année.
Le problème, c'est les chiffres derrière. Alors, ça fait... 8888, on dira 8889 infirmières par an.
Mais là, on n'a pas compté les charges, enfin les cotisations.
Ah, j'aime pas le mot charge.
Les cotisations, c'est combien?
Ouais, enfin, ça fait 4000 à peu près, 4200 infirmières.
Et voilà. Donc, si elle payait normalement ses impôts, il y aurait 4200 infirmières possibles en plus.
Ben, les copines, il y aurait beaucoup plus de monde. Hein.
Ça ferait un bien fou à plusieurs hôpitaux, hein, à plusieurs CHU.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État. Ne quittez pas, nous allons vous répondre dans un instant.
Service de presse de Christine Lagarde, bonjour.
Oui, bonjour, excusez-moi de vous déranger. Je prépare un sujet sur les impôts.
Oui.
Et j'aurais voulu demander à l'administration à Bercy, je commence par un petit truc sur l'affaire Bettencourt, et j'aurais voulu avoir deux vérifications, savoir si elle était bien taxée à hauteur de 9%.
Alors, écoutez, je vais demander à un conseiller de vous rappeler, ils sont en pause déjeuner pour le moment, donc affaire Bettencourt.
Voilà, j'aurais une deuxième question sur le fait qu'il n'y a pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans.
Contrôle fiscal.
Savoir si c'était bien vrai ce qui était paru dans la presse, quoi.
Super.
Je vous remercie beaucoup, madame.
Et moi, bonne journée.
Au revoir,
monsieur.
Une enquête sérieuse, mais c'est difficile hein, d'avoir ce genre de précision et d'être précisément renseigné. Très héroïque, hein, le métier de reporter à la base où j'y suis. Alors, autre chose dont on parle beaucoup sont les niches fiscales et l'optimisation fiscale. Voilà des mots jolis, niche fiscale, c'est gentil une niche, voilà, je te fais une petite niche, ou la niche du chien-chien, c'est gentil. Optimisation, c'est sympa aussi. Optimisation, voilà, on va optimiser. C'est des mots sympas. Et on a voulu savoir ce que ça cachait un peu ces mots-là en interrogeant Liem Wang Gok, qui est un économiste bien connu et très précis sur ce domaine. Il est l'auteur de Vive les impôts et d'une histoire aussi édifiante des impôts.
En une du numéro de l'Humanité aujourd'hui, il y a Eric Woerth dans l'hémicycle à l'Assemblée qui a l'air un peu inquiet. L'affaire Bettencourt nous a montré que la troisième fortune de France était seulement taxée à hauteur de 9%. Avec l'impôt sur le revenu et l'impôt sur les sociétés, elle qui touche 408 millions d'euros à peu près chaque année, elle en laisse un peu moins de 40 millions au fisc. Donc un peu moins de 10%, aux alentours de 9%. Quand je vais à l'hôpital Nord à Amiens, je trouve un infirmier qui lui paye 12%. Moi, j'ai été à 15% avant d'avoir un enfant. Je ne sais pas vous, à combien de pourcents vous êtes...
Je crois qu'il est autour de... Le taux moyen, hein, pas le taux marginal, il doit être autour de 12,8, si je me souviens bien de ce qu'il y a sur ma feuille d'impôt. Donc, d'où vient la différence? Elle vient tout simplement du fait que Madame Bettencourt s'adonne à un sport favori des riches qui s'appelle l'optimisation fiscale et qui joue notamment par le truchement des niches fiscales. 86% des niches fiscales profitent aux 10% les plus riches. Et les niches fiscales permettent aux riches de diminuer considérablement leur impôt, si bien que, proportionnellement à leurs revenus, ils payent beaucoup moins que les pauvres.
Alors, j'ai fait un petit tableau parce qu'en fait, on ne comprend pas trop. Les niches fiscales, c'est en milliards, donc on ne comprend pas trop ce que ça veut dire, des milliards pour des gens comme moi. Quand on sort la calculette, on ne sait même pas combien de zéros il faut mettre pour que ça donne des milliards. Donc, j'ai fait un petit truc sur les niches fiscales. J'ai les 37 dépenses fiscales sur l'impôt sur le revenu. Les 37 qui coûtent le plus. Ouais. Donc, alors par exemple, la deuxième, en fait, je ne sais même pas ce que ça veut dire. Exonération ou imposition réduite des produits attachés aux bons ou contrats de capitalisation et d'assurance vie. Donc ça revient à 3,2 milliards. Donc, j'ai calculé en poste d'infirmière. Un poste d'infirmière, ça coûte à peu près 36 000 euros par an. Ça fait 100 000 postes d'infirmière. Là, abattement de 40% sur les dividendes des sociétés. Je ne sais pas ce que c'est. Mais ça fait 1 790 millions. Donc ça fait 50 000 postes d'infirmière. Là, vous comprenez ce que c'est, vous? L'exonération des gains de cession de valeur mobilière réalisés dans le cadre d'un plan d'épargne par action?
C'est quand vous prenez des bénéfices sur vos actions. La cession mobilière, c'est quand vous prenez des bénéfices. Vous êtes exonéré à hauteur de la niche fiscale considérée.
Ah d'accord, je n'avais même pas compris, moi. Et donc ça c'est 30 000 postes d'infirmière, ce truc-là.
Oui.
Crédit d'impôt pour l'emploi d'un salarié à domicile. On est à 1 milliard 260 millions, ça fait 40 000 postes d'infirmières.
Parmi les niches que vous avez citées, ce sont des niches qui profitent essentiellement aux classes riches, aux épargnants et aux entreprises.
De quand ça date toutes ces niches fiscales là? Parce que maintenant il y en a un paquet. Il paraît qu'il y a 486 niches fiscales. Là j'en ai cité quelques-unes, mais il y en a 486. Finalement c'est comme si on avait un gruyère, c'est l'impôt sur le revenu. Et au fur et à mesure, on fait des trous dans l'impôt sur le revenu. Et à la fin, il n'y a presque plus que des trous, quoi.
Absolument. Voilà, et ça profite à 86% aux riches.
Si on veut augmenter les impôts dans notre pays... Hein,
France Info,
il y a
17 mars 2009.
Tellement de candidats pour les augmenter, vous aurez l'embarras du choix aux prochaines élections.
Nicolas Sarkozy.
Alors, s'il y en a qui ça les démange d'augmenter les impôts, ils oublient qu'on est dans une compétition... Et mon but, c'est de faire venir en France, faire investir en France des gens qui ont de l'argent dans nos usines et dans nos entreprises. C'est pas de les faire partir. D'ailleurs, s'il suffisait d'augmenter les impôts pour qu'il y ait de la justice sociale, depuis des années qu'on augmente les impôts dans notre pays, gauche-droite confondue, on devrait être le pays le plus juste au monde.
Pinocchio, le nez du président doit s'allonger. Il est absolument faux de dire que les impôts ont augmenté durant les 10 dernières années. C'est absolument faux. Et c'est un rapport de l'Assemblée nationale publié, déposé le 30 juin dernier, qui le montre et qui le démontre. L'État a perdu plus de 100 milliards d'euros de recettes fiscales en 10 ans. C'est le magazine L'Expansion, qui n'est pas vraiment un magazine gauchiste, qui s'en fait l'écho. Cette information peut circuler, rien à faire. C'est Pinocchio qui a le dernier mot jusque-là. Et c'est quand même préoccupant, parce que ces baisses d'impôts, ce qui est juste dans ce que dit notre président de la République, c'est que c'est gauche-droite confondue, en effet. C'est en l'année 2000 qui a été marquée par une rupture dans l'orientation de la politique fiscale de la France, et on a là la véritable origine et la source du déficit des comptes publics.
D'accord. Ça a déjà été taxé pour 2006-2007. Ouais, c'est assez classique. Mais alors, je sais pas, bon, moi, je sais pas si ça va avoir quelque chose avec le blanchiment ou autre, bon, on verra bien. D'accord, avec plaisir. Merci beaucoup. Au revoir.
Maître Sérazac, Vous êtes avocate fiscaliste à Paris. On se trouve là, avenue Montaigne, dans votre bureau. Alors, vous, vous intervenez dans les, notamment dans les conflits avec l'administration fiscale. Voilà, je suis un riche héritier. Je possède notamment des parts importantes dans des grandes entreprises. Je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. Je suis un beau client pour vous, quand même.
Je vais tout de suite l'épouser, là.
Donc, je perçois aux alentours de 400 millions d'euros de dividendes chaque année. J'ai bien sûr, bon, je vis modestement, entre guillemets. Je dépense, j'ai beau lire le Financial Times, dans lequel il y a un supplément « How to spend it », comment le dépenser. Je ne dépense qu'à peu près 10 millions d'euros chaque année. Voilà, j'ai pas besoin de me construire un yacht tous les ans. Donc en fait, bon, bah, il y a 390 millions que je n'utilise pas. Ça vient sur mon compte en banque. Je sais pas trop comment ça se passe exactement, mais ça m'arrive sur mon compte en banque par centaines de millions. Je suis imposé là-dessus assez lourdement. Je ne sais pas trop à quelle hauteur, je ne m'intéresse pas trop à ces questions financières très exactement, mais à quelle hauteur d'après vous
Vous êtes imposé soit à hauteur du prélèvement libératoire qui est de 18% d'impôt sur le revenu plus la CRDS et la CSG, ce qui fait un taux de 30%.
Donc 30% de 390 millions, bon, ça faisait un tour de 120-130 millions, je pense, un peu plus de 100 millions. Mm-hmm. Voilà. Je laisse à peu près 100 millions chaque année à l'administration fiscale. Mm-hmm. Et bon, on m'a dit qu'il y avait moyen de diminuer un peu ça.
Et en plus, vous oubliez qu'on va payer de l'ISF, parce que si vous retrouvez un compte bancaire de 390 millions d'euros, vous devez le déclarer à l'ISF.
Oui, aïe aïe. Enfin, quelle est l'idée que vous auriez pour que je cesse de laisser 50% de mon revenu ou 100, 200 millions d'euros chaque année au fisc?
Ah, mais il faudrait monter des structures type holding patrimonial, il faudrait le mettre dans l'assurance vie, il faudrait le placer et il faudrait investir en liquidité, en assurance vie ou dans le cadre d'une société holding.
Alors c'est quoi cette société holding?
C'est un outil d'optimisation fiscale, un outil de gestion du patrimoine, c'est un outil aussi d'exonération d'ISF. C'est un outil d'optimisation fiscale.
Et alors, dans mon cas, qu'est-ce que ça changerait?
Ah bah pour vous, vous ne payez pas du tout d'impôt dans ce cas-là. Et donc, ça vous ferait un taux d'imposition à 1,66, qui peut être réduit à zéro, évidemment, si la holding a des frais de gestion.
D'accord. Donc là,
les dividendes, ils sont quasiment exonérés.
Sur les 400 millions, je prends mes 10 millions dont j'ai besoin, parce que j'ai besoin de ces 10 millions.
Vous avez besoin de vie pour vivre, absolument.
Donc, sur ces 10 millions-là, je vais être taxé là.
Vous pouvez taxé et encore parce que vous les placez en liquidité dans un compte actif liquidité style SICAV ou autre, vous arrangez pour faire une très faible plus-value, ben vous ne paierez quasiment pas d'impôts. Vous pouvez arriver à zéro impôt. Vous savez, la France, elle peut être un paradis fiscal pour les gens qui s'organisent très bien, tout à fait légalement, et qui ont des bons conseillers fiscaux. La France s'apparente à un paradis fiscal. Un paradis fiscal, entre guillemets, par certains côtés.
Eh bien, écoutez, malgré la grisaille du temps dehors et la pluie qui tombe, vous me rendez le sourire, quoi.
Faut pas désespérer.
Bienvenue au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi. Ministère du budget, des comptes publics et de la réforme de l'État.
Allô?
Allô, bonjour.
Je suis François Ruffin, je suis reporter pour France Inter.
J'avais... Oui, monsieur?
Ruffin.
R-U-2-C-F-I-N.
Exactement.
Votre prénom?
François.
François, d'accord.
Et j'avais déjà laissé un message et on devait me rappeler.
Vous avez laissé un message quand, je peux savoir?
Il y a une semaine. Je ne prends pas de notes avec autant d'exactitude que vous. Quoi.
Attendez, je fais juste une petite recherche. Oui, tout à fait. Alors, quand vient de l'affaire Betancourt, c'est cela?
Voilà, c'est ça. C'était pour savoir si c'était bien vrai qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans et les chiffres qui étaient annoncés dans la presse d'une taxation de ses revenus à hauteur de 9%. Je voulais savoir si c'était des informations exactes ou pas.
D'accord. Ne vous inquiétez pas, je lui fais une petite de rappel.
Je vous remercie.
Mais je vous en prie.
Au revoir.
Maître Serrazac, qu'est-ce que vous avez pensé, par exemple, du cas de l'affaire Betancourt? Ça vous...
Elle a récupéré ce à quoi elle avait droit. Donc, elle a payé beaucoup d'impôts, elle a fait jouer le bouclier fiscal. En plus, elle avait une société, probablement une animatrice holding, et elle a payé ce qu'il fallait en toute légalité. Je ne défends pas particulièrement Madame Betancourt, mais je veux dire, le fait qu'on lui restitue 30 millions d'euros, c'est l'application de la loi.
Mais qu'est-ce que vous pensez de cette loi, là? Vous, Bah, vous la mettez en application. Vous avez...
Je mets en application, j'applique les dispositions de l'article 1er.
Vous avez des dossiers sur votre bureau de personnes à qui vous avez fait bénéficier du bouclier fiscal. Donc, mais qu'est-ce que vous en pensez de cette loi?
Je pense que le système fiscal français est très, très, très compliqué. La complexité, c'est pire que ce qu'on peut penser, parce qu'à chaque fois, vous avez un principe, des dérogations au principe et des dérogations aux dérogations. Ce qui fait que le contribuable moyen, il ne peut pas comprendre. Et ça, c'est source d'inégalité entre les contribuables. Parce qu'il y a quand même ceux qui sont armés, qui savent s'organiser, qui savent se faire conseiller, etc.
Qui viennent voir Maître Serazek.
Par exemple, il n'y a pas que moi. Et ceux, finalement, qui ne comprennent pas et qui ne peuvent pas bénéficier de régime dérogatoire ou de réduction d'impôts parce que c'est trop compliqué pour eux. Donc, il y a une rupture d'égalité entre les citoyens, de par la complexité même du système d'imposition français. Et ce système d'imposition, il doit être absolument, absolument revu, simplifié, corrigé.
C'est-à-dire que là, on a normalement, l'impôt est supposé être progressif. Et ce qu'on découvre de temps en temps...
Il n'est plus progressif. Il n'est plus progressif puisqu'on s'aperçoit qu'il y a des contribuables qui devraient être imposés au taux marginal de 40% et qui peuvent l'être à 9, à 8, à 7, à 5.
Madame Bettencourt apparaît comme étant taxée, on va dire, entre 5 et 10%, grosso modo. Et moi, je regardais, bon, avant d'avoir un enfant, j'étais taxé à hauteur de 15,5%. Bon, maintenant, je suis descendu en dessous. Vous êtes à combien?
Moi, je suis à 25%.
Ben voyons, vous n'êtes pas doué alors.
Ah non, moi je m'occupe pas de mon... Moi je veux payer des impôts, hein, donc pas de souci. Je cherche pas à optimiser.
Voilà, là on a l'impression que l'impôt il n'est pas plus progressif, mais il est régressif. Vous payez 25%, bon, l'infirmier en paye 12, moi j'en payais 15,5, maintenant je suis en dessous.
Parce que ce sont des salaires, des honoraires, donc c'est des revenus du travail. Donc nous on paye plein pot. Mais à partir du moment où on a un patrimoine très important, on structure le patrimoine, et là on arrive à réduire son taux marginal d'imposition.
Vite. Allez, faut mettre à coup les gars là. Allez, hop. Allez, hop.
D'accroître la compétitivité de prix. La firme doit alors tenir qualité. Sinon, elle perdra des parts de marché.
Conquérir de nouveaux marchés. La croissance, c'est l'emploi. Lutter, c'est vivre.
Le problème, c'est pas compliqué.
Il faut redonner le français, le goût du travail.
Allez au boulot, là. Vous voyez que je rien faire. Je
vais remplir une petite boîte. Jusqu'à ce qu'elle fasse 500 grammes, tu vois.
On va se tourner maintenant vers un ministre de l'économie et des finances. Voilà, carrément. Michel Sapin a été ministre de l'économie et des finances entre avril 1992 et mars 1993 dans le gouvernement Pierre Bérégovoy. Il a été ministre de la fonction publique et de la réforme de l'État avec Lionel Jospin. Il est socialiste et spécialiste des problème évidemment, entre autres, de fiscalité, ce qui nous intéresse évidemment à l'horizon des élections de 2012. Et ce qu'on comprend, enfin ce qu'on essaye de comprendre et de faire comprendre, c'est l'importance politique de la fiscalité, des choix concernant la fiscalité. Michel Sapin.
Michel Sapin, on se trouve dans votre bureau, à l'Assemblée nationale. Vous avez devant vous une petite télé avec indiqué prochaine séance jeudi 9 septembre à 9h30, réforme des retraites, suite, c'est le programme de la journée. Quoi. Vous êtes secrétaire national à l'économie et à la fiscalité au sein du Parti Socialiste. Vous avez été ministre de l'économie en 1992 sous Pierre Bérégovoy. Là, le titre des échos que vous avez sous les yeux, c'est « Niche fiscale, Barouin dévoile les arbitrages ». À propos de niche fiscale, on a découvert dernièrement que la troisième fortune de France, Liliane Bettencourt, payait des impôts à hauteur de 9% de ses revenus. Je suis allé à l'hôpital d'Amiens, il y avait un infirmier qui était plutôt aux alentours de 12%. Moi, j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Maintenant, je suis passé en dessous des 9%. Mais j'étais à 15% avant d'avoir un enfant. Elle a manifestement plus d'enfants à charge. Enfin, comment ça se fait qu'elle paye que 9%? Comment on en est arrivé là?
Par un processus qui a rendu terriblement compliqué quelque chose qui était très simple. Qu'est-ce qui était très simple? L'impôt sur le revenu. Qui, au départ, dans ses concepteurs, mais jusqu'à ces toutes dernières années, était un impôt sur l'ensemble des revenus que l'on payait, j'allais dire, naturellement, avec un effet progressif, et donc ce qu'on appelle les fameuses tranches, qui, jusqu'à il y a une dizaine d'années, pouvaient monter jusqu'à 55%. C'était simple. Et puis, il y a eu cette forme de phobie de l'impôt, qui est apparue beaucoup à droite, mais qui parfois était un peu contagieuse et a pu être aussi portée par quelques voix à gauche. Et qui, parce qu'il fallait faire baisser l'impôt sans trop le montrer, donc on maintenait à peu près les tranches d'impôt sur le revenu, on laissait penser qu'on continuait à avoir un mécanisme progressif, par le mécanisme qu'on qualifie aujourd'hui des niches, arrive à des situations incroyables. Que Madame Bettencourt non seulement ne paye que 9%, mais en plus se voit rétrocéder 30 millions d'euros par le biais du bouclier fiscal, on est arrivé dans l'aberration. Il n'y a qu'une seule solution dans ce domaine, c'est redonner de la simplicité et de la lisibilité à un système fiscal naturel qu'on trouve dans tous les pays du monde, qui est un impôt normal et progressif sur l'ensemble des revenus.
Vous dites, cette phobie de l'impôt, vous l'avez vu s'imposer lentement, par quelles étapes, depuis quand?
Cette idéologie qu'on a connue, venue des États-Unis, qui consistait à dire, si on rend les riches un peu plus riches, les pauvres vont en profiter. Ça s'est appelé aux États-Unis la théorie dite du ruissellement. Si en haut ils sont plus riches, ça va ruisseler progressivement et ceux qui sont en dessous vont pouvoir s'enrichir. C'est une doctrine qui n'a montré aucunement son efficacité économique, qui, bien entendu, est d'une injustice fiscale extraordinaire, et qui, en plus, a appauvri les puissances publiques, partout. C'est de là que vient le déficit monstrueux des États-Unis, c'est de là que viennent les déficits de la France. Il y a un chiffre que, maintenant, beaucoup de gens servent, parce qu'il a été élaboré par quelqu'un qui est membre de la majorité, qui est M. Carré, rapporteur général du budget à l'Assemblée nationale. Il a fait un calcul très intéressant. Il a dit, si on appliquait au jour d'aujourd'hui les règles fiscales qui existaient il y a 10 ans, qu'est-ce qui se passerait? Eh bien, il est arrivé à la conclusion que nous aurions 100 milliards de recettes supplémentaires. Ou pour le dire autrement, au cours des 10 dernières années, en tripatouillant à la baisse les impôts, on a privé le budget de l'État et de la sécurité sociale, accessoirement, de 100 milliards. Vous connaissez peut-être le chiffre du déficit d'il y a 2 ans. C'était 50 milliards. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, la France aurait pu être à l'équilibre si on n'avait pas subi cette phobie de l'impôt.
Bienvenue au ministère de l'Économie, de l'Industrie et de l'Emploi. Ministère du Budget, des Comptes Publics et de la Réforme de l'État.
Allô?
Oui.
Écoutez, je vous appelle en fait parce que j'aurais bien voulu interviewer quelqu'un du ministère des Finances pour un sujet sur les impôts, et dont le point de départ est l'affaire Bettencourt. J'ai vu dans la presse qu'il n'y avait pas eu de contrôle fiscal depuis 13 ans.
À Bercy, je m'appelle Bercy, il y a 2 ministères différents et qui sont indépendants. Il y a le ministère de l'économie et le ministère du budget. Et tout ce qui est contrôle fiscal, c'est du ressort du ministère du budget, c'est-à-dire chez François Baroin. C'est leur job. Enfin, moi, contrôle fiscaux, je ne suis pas ça du tout.
Sur l'effet du bouclier fiscal, je croyais que le bouclier fiscal, c'était seulement quand on payait de 50% de ses revenus en impôts. Et là, les spécialistes que j'ai consultés constataient que l'effort fiscal, on va dire, de Liliane Bettencourt était entre 5 et 10%, quoi.
Attendez, il y a un certain nombre de mécanismes pour les particuliers comme pour les entreprises pour payer moins d'impôts.
Oui.
Après, vous les utilisez ou vous ne les utilisez pas.
Comme je me disais que c'était Mme Lagarde qui avait présenté la loi TEPA, dont le bouclier fiscal à l'intérieur, elle aurait peut-être à cœur de défendre cette mesure.
Bah voyons.
Pardon?
Oui, Mais le problème, c'est pas d'être hacker ou pas, c'est d'avoir le temps. Encore une fois, c'est au ministère du budget, c'est sa responsabilité. Voilà, je vous en prie.
Au revoir. Michel Sapin. Alors, vous avez devant vous les échos. Moi, je viens d'Amiens, là, ce matin. J'ai pris le train pour venir d'Amiens. Et j'ai ramené mon quotidien régional, qui est le Courrier Picard. Et le titre du Courrier Picard en une, là, c'est 18 postes ont disparu dans les écoles. Le département, toujours confronté à des retards scolaires, perd au final 18 classes à la rentrée. Est-ce que vous faites un lien entre cette une du Courrier Picard, 18 postes ont disparu dans les écoles, et les baisses d'impôts?
Bien sûr que le lien existe, même si on aimerait tellement qu'il n'existe pas. On aimerait tellement pouvoir dire les uns les autres, il faut plus de profs et moins d'impôts. Chacun voit bien que les services publics, l'action publique, la sécurité sociale, solidaire, c'est financé par quoi? Par les impôts et les cotisations sociales. Et au fond, le degré de civilisation d'une société se mesure au niveau de solidarité, au niveau de construction entre les hommes et les femmes sur un même territoire, de quelque chose qui les relie entre eux. Tous ensemble, avec les impôts que nous payons, et en contrepartie, la santé dont nous disposons, les transports publics dont nous disposons, les écoles dont nous disposons.
Il y a un discours de Nicolas Sarkozy qui m'a paru assez emblématique. Donc c'est pas vieux, hein, ça date du 12 juillet 2010. Dans un premier temps, il dit « Nous avons diminué les postes de fonctionnaires dans notre pays comme jamais. » Nous avons supprimé 100 000 postes de fonctionnaires en 3 ans dans le budget 2011. Nous en supprimerons encore 34 000. La France ne peut pas vivre au-dessus de ses moyens. Et tout de suite après, il entame. Augmenter les impôts, je m'y refuse totalement.
Il y a des espèces de tics de langage. On ne parle pas des professeurs. On ne parle pas des policiers, des gendarmes, ou des infirmiers, ou des infirmières. On parle des fonctionnaires. Comme si, lorsqu'on supprime un poste sur deux de fonctionnaires partant à la retraite, on supprimerait un sur deux bureaucrates obscurs, gris et tristes, ne faisant rien dans son bureau. Mais la moitié des fonctionnaires de l'État, ce sont des agents de l'éducation nationale. Donc quand vous diminuez le nombre des fonctionnaires, vous commencez d'abord et avant toute chose par diminuer le nombre des profs. Et après, ça a des conséquences dans les écoles, dans les lycées, dans les collèges. Même un secteur qu'on croyait protégé dans l'esprit, dans la tête de Nicolas Sarkozy et de son gouvernement, qui est celui de la sécurité, paye son tribut. Ce qui fait qu'aujourd'hui, la principale caractéristique de la politique de sécurité du président de la République, c'est d'avoir fait diminuer de 9000 le nombre des gendarmes et des policiers sur le terrain. Après, on peut toujours avoir des grands discours sécuritaires sur ceci, sur cela. Mais la sécurité, c'est aussi au quotidien, c'est aussi sur le terrain. Il faut encore des jeux de mots. Les fonctionnaires, c'est triste, on n'aime pas ça. Mais les policiers, on en veut plus, les gendarmes, on en veut plus, les profs, on en veut plus, et pourtant, il y en a aujourd'hui moins.
Et pour faire passer le déficit de la France sous la barre des 3% comme promis d'ici 2 ans, combien de millions de postes de fonctionnaires il faut supprimer?
Le chiffre est connu. Lorsque vous supprimez un poste de fonctionnaire sur deux partant à la retraite, chiffre du ministère du Budget, vous économisez 500 millions d'euros par an. Lorsque vous baissez la TVA dans la restauration, vous perdez 3 milliards d'euros de recettes. Je fais le calcul. Dans les 5 années de Nicolas Sarkozy, la diminution du nombre des fonctionnaires aura rapporté moins au budget de l'État que la baisse de TVA n'aura coûté au budget de l'État.
La fiscalité fabrique de l'inégalité, c'était le premier volet aujourd'hui. Il y a une suite demain et on a d'autres questions à poser, notamment à Michel Sapin. Merci à tous, merci, c'était un reportage de François Ruffin. Merci aux infirmières de l'hôpital Nord d'Amiens, merci à Lim Hancock, merci à Maître Serazek. À lire « Vive les impôts » du groupe Attaque, publié par les éditions des Mille et Une Nuits, c'était en 2005. Il y a beaucoup d'autres bouquins sur ce thème que vous saurez trouver temps, vous êtes malin. Et puis autre chose, il reste quelques places pour l'enregistrement de l'émission avec le monde diplomatique. Demain, mercredi 29 septembre, ça aura lieu de 18h à 20h à la Java, 105 rue du Faubourg du Temple, dans le 10e arrondissement de Paris. Le musicien qui nous accompagnera, c'est Fantasio. Voilà, vous pouvez vous inscrire en envoyant votre nom et le nombre de places souhaitées à lediplo@gmail.com, lediplo@gmail.com. Tout attaché et sans accent, bien évidemment. Et puis, vous pouvez voir la vidéo de l'émission d'hier sur là-bas.org, là-bas.org, tournée par nos amis les Mutins de Pangée. Vous retrouvez toutes les informations sur le site de France Inter. À la rubrique émission Là-bas, si j'y suis, vous pouvez y faire des commentaires, toujours attendus. Et puis, sur là-bas.org aussi, là-bas.org. À la technique aujourd'hui, Yann Bouillot et Nicolas Lapeyre. C'est Koyen Guyen qui réalise cette émission, assistée d'Agnès Lebotte et Marina Touillez. Quant à elle, attend vos messages sur le répondeur de là-bas si j'y suis, au 01 56 40 37 37. 01 56 40 37 37.
Johanna de Tabac Info Service, je vous écoute.
Oui, bonjour. Je vous appelle car c'est bientôt mon anniversaire et j'ai décidé d'en profiter pour arrêter de fumer. Le problème, c'est que je l'ai déjà annoncé à tous mes proches et j'ai peur de pas m'y tenir.
Vous avez bien fait car d'un côté, ça vous engage à arrêter.
Oui, mais je suis pas sûr d'avoir assez de volonté.
En fait, ce qui compte avant tout, ce sont vos motivations. Mais si vous voulez, nous pouvons faire un point sur celle-ci.
Ah oui, pourquoi pas.
Vous voulez arrêter de fumer ? Appelez Tabac Info Service au 39 89 et bénéficiez des conseils personnalisés d'un tabacologue. 39 89, un service de l'INPES et du ministère de la Santé. 15 centimes la minute.
Moi, je suis boulanger et j'aime bien pétrir mes idées.
Je suis fleuriste et j'ai des choses à dire autrement qu'en langage des fleurs.
Je suis dans l'énergie solaire et de l'énergie, j'en ai à revendre pour protéger mes intérêts.
Ensemble, nous sommes la première entreprise de France. Voilà pourquoi nous voterons pour les représentants locaux et nationaux qui défendent notre passion et nos intérêts. Lors des prochaines élections aux Chambres de Métiers et de l'Artisanat, du 28 septembre au 13 octobre 2010, vous aussi, votez. Chambre de Métiers et de l'Artisanat, agir pour réussir.
MAF Assurance, bonjour.
Quige, la MAF offre une réduction sur la première cotisation santé égale à deux fois l'âge de l'assuré.
Eh oui, à partir de 50 ans, moins 100 euros, 60 ans, 120 euros, etc.
Miss MAF, avec vous, le temps c'est de l'argent. C'est valable aussi pour les professionnels?
Bien sûr, depuis toujours, MAF assure la santé des particuliers et des professionnels.
Miss MAF, aujourd'hui je suis heureux d'avoir mon âge.
Pour votre assurance santé, la référence qualité-prix,
c'est la MAF.
Offre valable jusqu'au 31 octobre 2010. Conditions au 0800 130 131. Appel gratuit depuis un poste fixe, surcoût selon opérateur.
16h20 sur Inter. On se retrouve demain à 15h pour là-bas si j'y suis. Je vous laisse pour les infos avec Corinne Audouin. Salut.
Le Secours Populaire, le MRAP, mais aussi la CIMADE appellent à manifester cet après-midi devant l'Assemblée nationale. Les députés commencent l'examen de la loi sur l'immigration. Le texte qui durcit les conditions d'accueil et de séjour des étrangers suscite des critiques jusque dans les rangs de la majorité. Le projet prévoit notamment la déchéance de nationalité pour les auteurs de crimes envers des personnes dépositaires de l'autorité publique. Il durcit également les conditions d'accès et de séjour des immigrés, avec plusieurs dispositions visant spécifiquement les Roms. Il s'agit du cinquième texte de loi sur le sujet en 7 ans. La compagnie aérienne irlandaise Ryanair est mise en examen pour travail dissimulé. Plusieurs syndicats de personnel avaient porté plainte auprès du tribunal d'Aix-en-Provence. Objet du litige, la société n'a souscrit à aucune obligation du droit du travail français, alors que de nombreux salariés de la compagnie résident en France, notamment à Marseille. Actuellement, les 120 employés de Ryanair à Marseille payent leurs impôts, leurs cotisations sociales et de retraite en Irlande. Unilever France veut fermer son usine Fralib de Gémenos dans les Bouches-du-Rhône. C'est le seul site en France à fabriquer les thés Lipton et les infusions éléphants. L'usine emploie 182 salariés, raison invoquée le manque de compétitivité du site. L'éducation nationale peut mieux faire dans la lutte contre l'homophobie. C'est ce qu'estime l'interassociative lesbienne, gay, bi et trans. La campagne de lutte contre l'homophobie lancée au printemps dernier n'a en effet touché que 50% des collèges et lycées. La moitié des établissement n'a pas affiché les tracts et les affiches qui indiquaient aux jeunes s'interrogeant sur leur sexualité un numéro de téléphone et un site internet. Les associations réclament que la campagne soit reconduite au premier trimestre. Anne Lauvergeon, la présidente d'Areva, ira au Niger jeudi et vendredi. Il y a 10 jours, 7 salariés du groupe nucléaire ont été enlevés au nord du pays. Anne Lauvergeon se rendra à Arlit, où s'est passé l'enlèvement. Le rapt a été revendiqué par Al-Qaïda au Maghreb islamique. Les otages seraient détenus dans le désert, à la zone frontalière entre le Mali et l'Algérie. 19 ans de prison pour une figure de la blogosphère iranienne. Hossein Derakhshan est détenu depuis 2 ans à Téhéran. Ce journaliste irano-canadien avait été arrêté à son retour en Iran après 8 ans d'exil au Canada. Il est le premier à avoir créé un blog en persan. Hossein Derakhshan est condamné pour, entre autres, coopération avec des pays ennemis, propagande contre le pouvoir et insulte à l'islam. Il lui est surtout reproché d'avoir voyagé en Israël. Sa compagne française, Sandrine Murcia, a récemment lancé un appel à la mobilisation internationale. Une grève des contrôleurs aériens perturbe le trafic des avions en Belgique. Depuis 14 heures, plus aucun avion ne décolle de l'aéroport international de Bruxelles. L'aéroport de Charleroi subit aussi des retards et des annulations. Les compagnies Jet Airfly et Air Arabia ont détourné leur vol vers Lille.
Groupama, 100% avec les pros.
Qu'est-ce que tu lis ?
L'horoscope, spécial hôtelier.
Ah, et il prévoit quoi pour les réservations de cet hiver ?
C'est quoi ton signe ?
Poisson.
Oula, des annulations sont à prévoir.
Non, je suis Capricorne, moi. Allô, Cerise ?
Peu importe, vous avez l'assurance pro de Groupama.
Et c'est bon signe, ça ?
Oui, car en cas d'annulation, Groupama compense votre préjudice financier.
Ah, bien !
Pour plus d'infos, rendez-vous sur groupama.fr.
Voir conditions et limites fixées au contrat.
Cette semaine, dans le Pont des Artistes, Isabelle Dordain reçoit Tikenja Fakoli, Majo et Sly Johnson.
Rendez-vous pour l'enregistrement de l'émission demain à partir de 18h dans le grand hall de la Maison de Radio France.
Entrée libre et gratuite dans la limite des places disponibles.
Le Crédit Mutuel donne le la à la musique sur France Inter. France Inter. France Inter.
La différence.
16h04 sur France Inter et nous rejoignons Frédéric Lodéon aujourd'hui en direct du Musée en musique à Grenoble. Bonjour.
Carrefour de l'Odéon. Merci Corinne Audouin et bonjour à tous ici à Grenoble. Nous sommes en direct donc, nous allons parler de musée en musique effectivement, mais nous sommes à la salle Olivier Messiaen, juste à côté d'ailleurs. Pourquoi ? Parce qu'on devait venir le 23, comme vous savez il y a eu manifestation et grève, donc à cette date d'aujourd'hui, le musée était occupé, voilà, l'auditorium était plein. Alors ça tombe bien parce qu'aujourd'hui il y a encore plus de place ici, il y a tellement de monde, de Grenoblois et autres, et amis du musée qui sont venus, et de France Inter je suppose aussi, que nous sommes vraiment devant une foule magnifique. Et je suis très heureux. Ouais, ben vous avez raison. Et nous sommes très heureux d'être ensemble parce que nous avons des artistes de tout premier plan qui sont programmés pour la saison de Musée en Musique. Le Quatuor Ludwig qui est déjà installé. Eric Ferrand-Kawa, pianiste qui va venir dans quelques minutes. Romain Leleu, le trompettiste actuel avec Sandra Chamou au piano. Et mon invité à ma droite, là, Pascale Galliard qui est présidente et directrice de Musée en Musique. Bonjour Pascale.
Bonjour Frédéric.
Alors écoutez, on vous doit ça parce que c'est vous qui avez voulu cette émission. Évidemment, j'ai pas boudé parce que j'ai pas mal d'origine grenoble. Et c'est pour présenter votre saison, ici, dans ce musée qui est tout proche de quelques mètres, que vous nous avez fait venir. On est tellement contents parce qu'il y a des artistes, vous avez réussi à les convaincre, ils ont des carrières énormes, les Quatuors Ludwig. Là, il y a un petit dépliant, mesdames et messieurs, pour regarder peut-être dans l'entrée. Quand on regarde où ils jouent, c'est effrayant, c'est tout le temps, partout. Évidemment, ici, c'est marqué, France Inter, Carrefour de l'Odéon, puis à Maurepas, juste après, et puis le 3, ben, à Grenoble, ils viennent à l'auditorium du musée, mais alors je suis inquiet parce qu'il n'y aura pas assez de place quand ils vont revenir tout à l'heure. Le 14 octobre, il y aura Strasbourg, il y aura le Valois. Enfin, on peut pas dire tout tellement. Regardez ça. Je montre au public, c'est tout noir, du caviar comme disent les Russes. Hein, tellement il y a des concerts. Ben, bravo, mesdames et messieurs, bravo. Et avant d'entendre, oui, bah oui, n'hésitez pas. On a le droit, on a le droit. Et avant d'entendre le Quatuor Ludwig, je vous propose un hommage au pianiste Christian Bernard qui était dans cette même salle, Olivier Messiaen, le 17 et le 18 juin, avec l'ensemble Stravaganza. Il avait été très applaudi. Et puis le lendemain, il est allé voir son médecin, on lui a diagnostiqué un cancer. Et il nous a quittés à la rentrée, donc il n'a vraiment pas eu beaucoup le loisir de vivre cette histoire, de résister complètement. Et il a été foudroyé, on peut le dire. Donc pour Christian Bernard, qui a été professeur à Grenoble et professeur au Conservatoire de Paris, qui a mené une carrière très importante et qui a beaucoup joué pour des œuvres, notamment pour Aviation sans frontières. Ben, ce petit moment, on va l'entendre dans une pièce de Gershwin, la conclusion de la Rhapsody in Blue. Il était accompagné par l'orchestre Colonne, dirigé par Stéphane Cardon, qui fut en poste très longtemps ici à Grenoble.